Europe 1.
Jouez à Cyberpunk 2077. Conduisez des bolides, combattez des corporations et améliorez votre corps.
On va s'amuser un peu.
Cyberpunk 2077. Achetez-le dès aujourd'hui sur Xbox, PlayStation, PC et Stadia. PEGI 18.
Ah 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis Mathieu Noël.
Bonjour à toutes, je suis Stéphane Bern.
Bienvenue
dans Historiquement Vôtre,
l'émission qui vous raconte l'histoire
sans jamais se la raconter.
À la question, pourquoi cette présentation fort désagréable à l'oreille?
Où Mathieu commence une phrase
et où Stéphane la finit? Eh bien tout simplement parce que comme nos héros du jour, nous sommes inséparables.
Oui Mathieu, comme Starsky and Hutch, nos six héros du jour avaient le point commun d'être indissociables. Astérix et Obélix.
Ah
oui,
bah
on ne peut pas les séparer.
Là, pour une fois, j'ai tout lu de nos personnages du jour. C'est la première fois, j'ai tout lu.
J'ai vachement moins lu,
mais là, j'ai tout lu, je suis béton.
Aussi étaient inséparables au premier sens du terme. Les jumeaux siamois Chang et Eng Bunker.
Qui ont donné le nom, comme ils venaient du Siam, aux siamois, tous les siamois qui ont suivi.
Quand vous êtes attachés, vraiment attachés l'un à l'autre.
Vous voyez, on n'en est pas là quand même.
Et vous Mathieu, quels inséparables de l'histoire plus contemporaine et plus vivant vous avez choisi d'évoquer?
Eh bien je vous avoue que j'ai pas mal hésité, puis j'ai vu la marque de votre jean et je me suis dit, allez, je vais raconter l'histoire de Dolce Gabbana. Comme ça vous aurez peut-être des prix sur vos prochaines emplettes, Stéphane.
Oh, vous êtes trop bon Mathieu.
Je sais.
Je l'ai trouvé un peu trop strict en mode pour moi.
Ah oui, ah, vous êtes plus Roberto Cavalli, on en parlera.
Oui. Et au sommaire également aujourd'hui, comme chaque après-midi, nos joyeux fanfarons de l'histoire.
Bon, et notre fanfaronne, bonjour Clémentine Portier-Caltaldac.
Bonjour. Oh, vous n'allez pas fanfaronner si longtemps, messieurs. J'ai une petite question et puis ça va être un sujet très sensible pour vous, vous allez voir. Alors, dites-moi, à quel autre mot vous fait penser le terme orchide? Si je vous dis orchide ou
orchidée.
Orchidée.
Une petite fleur.
Voilà. Et savez-vous d'où vient le mot orchidée?
Moins. C'est... Oh. Ah, je savais, mais j'ai oublié.
David le sait forcément,
David,
c'est tout.
Je vois
Il y a quelque chose qui a à voir avec le sexe.
Tout à fait, parce que le mot orchidée vient d'un grec, d'un mot grec qui désigne le testicule, monsieur. Alors, si je vous dis que Hitler et Franco étaient tous les deux monorchides.
Il n'en avait qu'une.
Exact. Tous les deux, exactement. Et alors, cette histoire a fait couler des hectolitres d'encre lorsqu'elle a été publiée en 2009 dans le journal El Mundo. Alors, vous voulez des inséparables, moi, je vais vous en donner, ou plutôt d'ailleurs des séparables.
Des séparables, complètement. Oui. Là, on part sur des très bonnes bases.
Comment disait Chirac? Quand ça m'en touche une, ça touche pas l'autre.
Sans faire vibrer l'autre, ouais. Stéphane. Et qui est là? Il vient de prendre la parole, d'ailleurs. Ouais, c'est David Castello-Lopez.
Tout à fait. Alors, vous savez, l'autre jour, il y a Benjamin qui est le rédacteur en chef de l'émission. Vous, les auditeurs le connaissent pas, mais bon, il est quand même quelqu'un d'important, l'émission.
Très important.
Il m'a appelé, il m'a dit, ouais, David, franchement, ta chronique, elle est super. En plus, j'adore tes cheveux et tout. Faudrait que tu viennes dîner à la maison un jour, ce serait super.
Et il est bizarre. Hein.
Il est bizarre, quand même. Et puis après, il a dit, mais peut-être tu devrais quand même éviter les sujets qui sont un peu trop loin des gens.
Comme.
Et il a pris l'exemple du béton armé, parce que oui, il y a quelques semaines, j'ai tenu 5 minutes sur les origines du béton armé. Il a dit mais attends, moi je trouve ça super le béton armé, mais le problème c'est les gens, tu comprends,
oui.
Eux ils en ont rien à foutre, voilà. Donc j'ai entendu la critique, Mathieu, et j'ai donc décidé aujourd'hui de vous parler de quelque chose qui est vraiment proche des gens, à savoir le porte-container maritime. Voilà. moi j'entends les critiques.
On a hâte d'entendre ces 5 minutes. Et enfin, Olivier Pouls, vous nous racontez chaque jour l'histoire d'une recette.
Oui, je vais me venger en quelque sorte, puisque hier, je vous ai bien concédé que la frite était d'origine française. Mais je vous expliquais que l'un des plats de mon enfance, l'endive au jambon, est là, pour le coup, un vrai plat belge.
Ah oui?
Et l'endive même est belge.
Mais l'endive
on l'appelle le chicon aussi.
Ah oui, le chicon gratin chez nous.
Oui.
C'est surtout quand même une vaste arnaque, l'endive au jambon. C'est pour faire aimer, c'est pour faire bouffer une endive à un enfant.
Délicieux.
Parce que quand vous faites cuire l'endive, il y a de l'amertume.
Et ça enlève l'amertume aussi.
Et le jambon et la béchamel enlèvent l'amertume.
Merci Alain Ducasse. Nous sommes donc prêts à démarrer historiquement vôtre. Il y aura évidemment, j'ai failli l'oublier,
de
Stéphane, parce que
on ferait mieux de parler de Guy Savoie.
Vous-même, vous l'oubliez souvent. C'est ce moment de l'émission, le quiz, qui permet à nos auditeurs de réaliser qu'ils sont aussi compétents en histoire que vous. Et sauf sur les hot dogs. Sur le hot dog, dès qu'il est question.
Ça restera longtemps dans les annales.
Oui, je vous laisse l'entière paternité de cette déclaration. Merci Stéphane, historiquement vôtre, c'est parti.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Aujourd'hui, Historiquement Vôtre s'intéresse aux inséparables de l'histoire. Parmi eux, comment ne pas évoquer le tandem légendaire d'un petit moustachu malicieux et d'un grand roux légèrement enveloppé. Stéphane Bern nous raconte l'histoire d'Astérix et Obélix.
Oui Mathieu, notre premier duo du jour est un peu particulier. Ils sont tout ce qu'il y a d'inséparable, mais ils sont faits d'encre et de papier. Des gros nez, des moustaches, des sangliers, des légionnaires qui prennent des baffes. On part en Armorique. En Armorique et plus précisément dans un petit village qui n'a d'ailleurs pas de nom.
C'est vrai.
Celui d'Astérix et Obélix, imaginé par René Goscinny et Albert Uderzo. Et ce duo d'irréductibles gaulois, ce n'est rien de moins qu'un trésor du patrimoine français. Et c'est moi qui vous le dis. La preuve, il suffit que je commence à dire « Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. » Pour que tous nos auditeurs repensent à ce dessin de la première page, cette loupe qui grossit le village des Gaulois, encerclée par quatre camps romains. Quand on pense à Astérix et Obélix, on a tout de suite l'œil qui pétille et un petit sourire. Et le plus beau, c'est que les deux Gaulois préférés des Français sont nés sur un coin de table en quelques heures seulement. Pour comprendre comment, il faut revenir au début des années 50. En 1951, Albert Uderzo a 24 ans. Il travaille à Paris pour WordPress, la filiale française d'un groupe belge qui vend des bandes dessinées clés en main aux journaux pour la jeunesse. Un beau matin, Uderzo apprend qu'un nouveau scénariste rejoint la petite équipe Goscinny. En entendant son nom, Uderzo se dit d'abord qu'il va pouvoir partager son héritage italien avec un autre Français d'origine italienne. Mais non, Goscinny a bien des racines étrangères, mais elles sont ukrainiennes et polonaises. Ça n'empêche pas que le courant passe tout de suite entre les deux artistes. Leur première collaboration, ce sont les aventures d'Oumpapa, un peau rouge du Nouveau Monde qui voit un beau jour débarquer les premiers colons européens. 8 ans plus tard, en 1959, Uderzo et Goscinny décident de participer au lancement du journal Pilote. Et Pilote, c'est une petite révolution. Dans un monde de la BD encore très dominé par les auteurs belges et américains, Pilote parie sur la BD française. Mais pour ça, il faut proposer de nouveaux héros. Et le temps presse. Le premier numéro doit paraître à l'automne 1959. En août, Goscinny et Uderzo n'ont toujours rien à proposer. Il leur faut une histoire française avec des héros français. Un après-midi, Uderzo invite Goscinny chez lui à Bobigny. Il fait beau, il fait chaud, on sort le pastis, on commence à discuter en vidant verre sur verre et en fumant cigarette sur cigarette. Ils sont déjà bien éméchés quand ils décident de balayer les grandes périodes de l'histoire de France avant de s'arrêter sur les Gaulois. Pourquoi les Gaulois ? Parce que ça parle à tout le monde. Comme tous les Français de cette époque, Uderzo et Goscinny ont grandi avec l'image des Celtes telle qu'on l'enseignait à l'école. C'est le fameux « Nos ancêtres, les Gaulois » du célèbre manuel scolaire d'Ernest Lavis. En 1959, tout le monde a en tête cette image de la tribu gauloise avec ses guerriers moustachus, simples et courageux qui résistent à Jules César jusqu'à la dernière bataille, celle d'Alésia. Goscinny et Uderzo comprennent tout de suite qu'il y a là un dénominateur commun à tous les Français et surtout qu'il y a de quoi s'amuser avec ces clichés, dont beaucoup, il faut bien le dire, sont d'ailleurs totalement faux. En 2 heures, tout est là. La potion magique, le village, ses habitants, les menhirs, la résistance contre les Romains, les sangliers et puis les deux héros, évidemment. Au départ, il ne devait y en avoir qu'un, Astérix. Mais Goscinny imagine un personnage de petit malin agile, alors qu'Uderzo, lui, aime bien dessiner des grands costauds comme l'Indien à Oumpapa. C'est pour ça que les deux compères inventent Obélix. Pour trouver une dynamique, un dialogue, un équilibre entre le petit teigneux et le grand bêta, un peu comme Laurel et Hardy. Et cette complémentarité, on la retrouve jusque dans leur nom. Astérix, tout le monde voit la référence à l'astérisque. Ce petit signe de typographie en forme d'étoile qui renvoie vers une note, vous savez, en bas de page. Mais Obélix aussi doit son nom au jargon de l'imprimerie. Pas du tout un obélisque égyptien comme celui qu'on peut voir aujourd'hui place de la Concorde. Et ce n'est pas un hasard, c'est un hommage au grand-père de Goscinny qui travaille comme ouvrier dans l'imprimerie. Obélix, ça vient de l'obèle, un petit signe en forme de croix qu'on utilise à côté d'une date pour signaler que c'est l'année de la mort d'un personnage. Le 27 octobre 1959, Pilote arrive dans les kiosques pour la première fois et Astérix et Obélix avec. Le succès est immédiat. Astérix et Obélix cartonnent très vite et ça continue toujours aujourd'hui, et pas uniquement en France, mais dans le monde entier avec pas loin de 400 millions d'albums vendus depuis leur naissance il y a plus de 60 ans maintenant. Mais la grande question, Mathieu, c'est peut-être de savoir pourquoi ?
ça a si bien marché.
Parce que c'est drôle pour les enfants, mais aussi pour les parents, et en plus que ça donne faim.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il y a des jours, je l'avoue, chers auditeurs, je suis un peu largué avec certains personnages de l'histoire. Aujourd'hui, on parle d'Astérix et d'Obélix. Alors là, je me sens chez moi. C'est dans notre thématique, les inséparables, indissociables même. Ils ont un succès considérable. Vous posez une bonne question, Stéphane. Pourquoi est-ce qu'Astérix et Obélix, finalement, ça fonctionne partout dans le monde?
Eh oui, bah, après tout, on peut comprendre pourquoi Astérix et Obélix ont marché en France. Leurs créateurs, Uderzo et Goscinny, se sont tellement amusés à parodier les traits de caractère des Français à travers leurs Gaulois qu'on comprend pourquoi ça nous parle à nous tous. Astérix et Obélix, comme tous les Gaulois de la BD, sont bagarreurs, colériques, râleurs, allergiques et rétifs à l'autorité. Mais ils sont aussi toujours prêts à se réunir pour affronter une menace et toujours prêts à se réconcilier à table en buvant des coups. Et ça, bah, ça nous parle forcément. Mais il y a autre chose qui est universelle avec Astérix et Obélix. Quelque chose qui dépasse les frontières. C'est l'amitié. Astérix et Obélix sont inséparables. Sauf peut-être dans Astérix le Gaulois, le tout premier album publié en octobre 1961, compilant les planches publiées les mois précédents dans Pilote. À cette époque, on sent bien que Goscinny et Uderzo ne savaient pas encore trop quoi faire de leur tailleur de menhir. Mais à partir de La Serpe d'Or, le deuxième album, Astérix et Obélix alors ne se séparent plus jamais. Ils font tout ensemble, chasser des sangliers, taper sur des Romains, parcourir le monde. Ils s'engueulent régulièrement, mais leur amitié est à toute épreuve. Elle résiste à toutes les bouderies, à toutes les engueulades. Elle tient bon face à la jalousie, comme dans Obélix et compagnie. Quand Obélix fait fortune, elle résiste aussi aux ragots dans La Zizanie. Elle résiste même au déshonneur quand Astérix est banni du village dans Astérix et le Chaudron.
Qu'est-ce que j'ai pu pleurer ?
Obélix n'hésite pas une seconde à tout lâcher pour le suivre. C'est une amitié idéale, voyez-vous Mathieu. Elle est loyale, elle est fidèle, qui reflète d'ailleurs celle qui existait entre Uderzo et Goscinny, assez solide pour leur permettre de réaliser un authentique exploit. En moins de 20 ans, les deux complices ont travaillé sur 26 albums et c'est tellement solide que l'histoire de leur héros a continué même après la mort brutale de Goscinny en 1977, au moment où il terminait Astérix chez les Belges. Il y a d'ailleurs un hommage tout petit, tout discret dans la dernière page de l'album. Gilberte, la femme de Goscinny, lui avait donné un surnom, Lapin. Et dans la dernière case, celle du banquet, Uderzo a dessiné un petit lapin qui s'en va, tout triste. Astérix et Obélix ont survécu à la mort de Goscinny. Ils ont survécu à celle d'Uderzo qui avait déjà passé la main à de nouveaux auteurs avant sa mort en mars 2020. Leur amitié est toujours là, mais le plus beau, c'est qu'ils sont inséparables jusque dans l'espace. Beaucoup de gens savent que le premier satellite lancé par la France en 1965 avait été baptisé Astérix. Ce qu'on ne sait pas toujours, en revanche, c'est qu'en 1979, 2 ans après la mort de Goscinny, la fusée Ariane a mis un autre satellite en orbite, Obélix. Et vous savez quoi ? Obélix est beaucoup plus gros qu'Astérix. Enfin, pardon, pas gros, enveloppé.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Pour continuer de parler d'Astérix et d'Obélix, nous sommes avec le spécialiste bande dessinée d'Europe 1. Il n'y en a qu'un. Bonjour Mathieu Charrieux.
Bonjour à tous.
Alors vous êtes chef, on peut le rappeler.
Oui,
chef
rappelez son titre parce qu'il aime bien qu'on insiste un peu sur
Société
son titre.
Société Culture.
Oui, c'est chic. Hein.
C'est chic. Justement, quand on parle, Mathieu, d'Astérix et Obélix, c'est tout un pan de notre culture qu'on aborde et de notre société finalement. Au fond, même si on a changé, il nous ressemble. Parce qu'il y a des valeurs qui, elles, n'ont pas changé.
Ben c'est ce que vous disiez, Stéphane. C'est pour ça qu'à mon avis, ça marche aussi bien et dans le monde entier. C'est parce que ça représente le français tel qu'on se l'imagine et tel qu'on l'est un peu, il faut bien dire. Vous avez Astérix quand même qui râle absolument à chaque page. Mmh. Vous avez Obélix qui aime la bonne bouffe, qui est très légèrement enveloppé et qui aime se retrouver comme ça pour faire des grands banquets. Vous avez tout l'univers. Et puis même, il faut quand même penser que ça se passe donc en Bretagne, entre guillemets, pour faire simple. Et donc, vous avez ces côtes bretonnes, vous avez tout ça dans Astérix. Donc, pour le petit Chinois qui lit ça, c'est la France. C'est-à-dire que ça incarne notre patrimoine.
Ce qu'on peut en revanche se demander, c'est dans quelle mesure, à l'étranger, on peut comprendre toutes les références, toutes les blagues qui sont parfois d'ailleurs destinées aux adultes, hein, certaines dans Astérix.
Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de comprendre les blagues.
Non,
en fait.
on peut apprécier
ça. On peut apprécier ça. Et d'ailleurs, Uderzo et Goscinny ont toujours dit qu'ils ne respectaient pas du tout l'histoire dans Astérix Obélix, qu'en gros, ils s'étaient inspirés d'un contexte historique, mais après, c'est avant tout de l'aventure de deux personnages, comme vous avez Tintin et Milou, comme vous avez Lucky Luke et Jolly Jumper, comme vous avez. C'est-à-dire que c'est vraiment le duo qui fonctionne. Et d'ailleurs, vous le disiez, mais au début, Obélix ne devait pas exister. Et c'est M. Uderzo qui a beaucoup insisté pour qu'il y ait Obélix. Et je pense qu'Astérix sans Obélix, on n'en parlerait pas aujourd'hui, parce que c'est évidemment le duo qui fait qu'on aime ces deux personnages.
Et oui.
La preuve qu'ils sont inséparables et surtout presque immortels, avant-hier précisément, un nouvel album est sorti. En 2020, encore quasi inédit, est signé du duo Uderzo et Goscinny. Comment on a retrouvé un album?
Alors, si on retrouve un album, vous imaginez bien. En fait, c'était ce qu'on
appelait, qu'est-ce qui se
passe? C'est ce qu'on appelait un livre illustré. C'est-à-dire qu'en 1967, ils fournissaient tellement de bandes dessinées qu'on, les éditions se sont dit, bon, il faut qu'on trouve d'autres moyens de vendre du Astérix. Et donc, ils ont fait un livre illustré, c'est-à-dire un livre où vous avez des dialogues et Uderzo qui avait fait une douzaine de dessins. Et surtout, et c'était ça le génie, ça avait été joué par des acteurs enregistrés sur vinyle. Et quand vous achetiez votre menhir d'or, puisque c'est le titre, vous aviez le vinyle où vous pouviez écouter l'histoire qui vous était racontée et jouée par des acteurs. Aujourd'hui, ce truc-là, il est quasiment introuvable. Moi, j'ai regardé sur Internet.
Même plus, vous ne l'avez pas.
C'est plus de 200. Non, la version originale, j'aimerais bien, si vous voulez me l'offrir, c'est plus de 200 euros sur les sites d'enchères. Voilà. C'est vraiment devenu collector. Et donc, les éditions Albert René, ils se sont dit, eh ben, on va ressortir ça dans une nouvelle édition. Donc, ils ont refait jouer tout ça à des acteurs professionnels. Vous avez plus de 30 minutes de bande-son. Et c'est accompagné, effectivement, d'un petit livre où vous avez, du coup, 12 dessins originaux d'Uderzo, qui est décédé il y a quelques mois.
Mais il y a une histoire ou pas?
Il y a une histoire. Alors, l'histoire, elle est dingue. Vous savez, Assurance Tourix, notre barde préférée, le grand blond.
Qui chante aussi bien que Stéphane Bern.
Je ne me permettrai pas, mais sans doute.
Si, moi, je me permets.
Qui, à la fin de chaque aventure, se retrouve ligoté comme ça pendant le grand banquet. Et ben, l'histoire, c'est tout simplement qu'il a décidé de participer au concours de barde de Gaulle. Donc, il est chargé par Astérix Obélix d'aller candidater et chanter devant tout un jury.
C'est la Star Academy ou The Voice.
Sauf qu'évidemment, comme il chante en chemin et qu'il chante très mal, ben, ils vont avoir tout un tas d'aventures et ils vont devoir le protéger de tout un tas d'assaillants.
Ah, voilà, c'est sympathique. Au fond, on parle d'Astérix et Obélix, on pourrait parler de Goscinny et d'Uderzo.
Il y a un parallèle.
Il y a un parallèle. C'est vraiment une amitié aussi incroyable.
C'est une amitié qui est absolument dingue. Mais ce que je raconte parfois, c'est que quand vous alliez chez M. Uderzo, qui avait un hôtel particulier à Neuilly, à la fin de sa vie, où j'avais la chance d'aller de temps en temps, sur son bureau, vous aviez une photo de sa femme et une photo de Goscinny. C'est-à-dire que c'était les deux personnes. Et à chaque fois que vous lui parliez de Goscinny, si vous en parliez dans une interview ou quoi, un petit peu en longueur, il finissait avec les larmes aux yeux. Moi, j'étais allé dans la maison de campagne aussi de M. Uderzo. Quand vous arriviez dans cette maison, qui était évidemment un domaine gigantesque, il vous prenait par la main, il vous disait, je vais vous montrer un endroit. Et vous arriviez sur une espèce d'allée, comme ça, goudronnée. Et il dit, voilà, ça, c'est mon endroit préféré. Vous le regardiez dans un domaine magnifique. Et en fait, quand vous regardiez bien, vous voyez par terre des vieux clous, vous savez, tout rouillés, les clous, comme les passages cloutés de l'époque, qui à l'époque étaient pas peints en blanc. Et il dit, voilà, ça, c'est mon endroit préféré parce que ces clous m'avaient été offerts par Goscinny quand j'ai acheté cette maison parce que lui détestait la campagne. Moi, j'adorais la campagne. Il m'avait dit, voilà, je t'amène un peu de ville chez toi. Vous aviez trois vieux clous qui étaient en train de pourrir et de rouiller. Et vraiment, c'était une amitié qui a tout dépassé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure du succès d'Astérix Obélix, c'est que je pense que c'était tellement honnête aussi dans ce qu'ils avaient envie de se raconter les deux. Parce qu'à l'époque, Goscinny, il écrivait ses scénarios, il les envoyait d'Uderzo qui les illustrait.
Il les mettait en image.
Et lui, quand il recevait un scénario, c'était un vrai moment de bonheur. C'est-à-dire qu'il découvrait lui aussi au fur et à mesure chaque page, chaque dialogue. Et pour lui, c'était formidable.
Parlez-nous du rôle d'Uderzo une fois que Goscinny décède et qu'il doit. Il se retrouve avec il a de l'or entre les mains, ce personnage, mais il n'a plus Goscinny pour l'écrire.
C'était un des plus grands scénaristes, sans doute, de l'histoire de la bande dessinée.
Exactement. Hein. On a les amoureux d'Astérix disent souvent qu'il y a un avant, un après, clairement, dans l'écriture des Astérix. Mais finalement, il a été à la hauteur de cet héritage. Il a réussi à faire encore de bons albums. Et...
En fait, c'est-à-dire qu'effectivement, quand il a fait apparaître des soucoupes volantes chez Astérix, on s'est tous dit qu'est-ce qu'il fait. Oui. Sauf que. Nous, on s'est dit ça, mais ils ont toujours vendu autant d'albums d'Astérix.
On peut dire aussi qu'il a suivi l'évolution.
Il a suivi, lui, c'est ce qu'il disait, qu'il voulait mettre un peu de modernité dans Astérix. Et à chaque fois que vous avez un Astérix qui sort, c'est plus de 2 millions d'albums vendus rien qu'en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un livre qui se vend à 2 millions d'exemplaires
en France. Même ceux de Stéphane Bern ?
1 900 000, je crois.
Pas loin, Stéphane.
Qu'est-ce que les... Alors, ce qui est incroyable, c'est que le succès qui se perpétue au-delà de la vie et de la mort donc de Goscinny et d'Uderzo, il y a les films aussi qui ont beaucoup participé à promouvoir la
BD. On a l'impression que tout le monde, tous les plus grands réalisateurs veulent faire leur Astérix.
Oui. Mais alors que vous savez que c'est vraiment très très compliqué de faire son Astérix parce que vous avez une espèce de bible qui existe.
Vous avez Anne Goscinny
et vous avez Anne Goscinny qui veille au grain. Oui. Et si vous dites je veux faire un Astérix, on vous envoie une bible épaisse comme ça dans laquelle il est dit tout ce que vous avez le droit de faire, mais aussi tout ce que vous ne devez pas faire. Et donc c'est un sacerdoce incroyable.
Anne Goscinny, qu'on a eu la chance de recevoir à ce micro l'année dernière, nous disait d'ailleurs que le meilleur film Astérix pour elle, celui qui avait le plus compris l'esprit de son père et respectant Uderzo aussi, c'était Alain Chabat.
Parce qu'il y a une folie aussi chez Alain Chabat.
Oui, il avait été très fidèle en même temps en apportant son univers aussi, effectivement.
En tout cas, ça continue. Là, on estime qu'il va se vendre le menhir d'or.
Alors, le menhir d'or, c'est compliqué parce que c'est pas une BD en tant que telle, oui. Mais ça va très, très, très bien se vendre. Oui. Vous savez, Astérix, c'est quand même la BD francophone la plus vendue dans le monde. Vous disiez près de 400 millions tout à l'heure. C'est plus que Tintin, par exemple. On a souvent Tintin, vous savez, qui a une image un petit peu plus chic. Mais Tintin, c'est moins de 300 millions.
Comment ça, plus chic?
Tintin, il a une image un peu parce que vous avez derrière les héritiers qui, eux, pour le coup, veillent au grain.
Relisez Tintin attention. Au Congo, c'est pas très chic. Hein.
mais voilà, donc aujourd'hui, c'est aussi l'un des vecteurs de notre culture à travers le monde. Et moi, que j'avais fait des déplacements avec Uderzo, c'était toujours impressionnant de voir les enfants quand ils comprenaient que c'était le papa d'Astérix et Obélix. Ils le regardaient avec des yeux, vous avez l'impression qu'ils découvraient le Père Noël. Il n'y a pas un foyer en France où vous n'avez pas un Astérix qui traîne dans les toilettes, dans la vieille bibliothèque, dans le grenier. Il y en a partout.
C'est vrai que vous avez lu Astérix?
J'ai tout Astérix.
C'est vrai.
Mais j'ai tout Tintin aussi.
Ah, comme ça, il y a pas de...
Je dis,
Plus ramassé.
C'est plus ramassé, oui.
C'est vrai.
Et bien écoutez... Et chaque fois, le nouvel Astérix, je l'attends avec le même gourmandise qu'un enfant attend les cadeaux de Noël.
Et je veux dire qu'on n'est pas souvent déçus. Il y a eu des très bons Astérix dans les derniers qui ont
bien
été...
Bien sûr, depuis Conrad et Ferré ont pris... Après, jusque-là, il y avait derrière Uderzo qui veillait au grain. C'est-à-dire qu'il m'avait notamment expliqué, quand il avait dû expliquer à Conrad comment dessiner le regard d'Astérix. Parce en fait, Astérix, ça a l'air un peu facile comme ça, mais il y a dans le regard, il y a une malice qui est dingue. Et il avait fait l'héritier, celui qui a dû reprendre le stylo, il lui a fait refaire des dizaines et des dizaines de fois.
Le stylo devait trembler.
Aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus là, donc il surveillera plus après, on peut leur faire confiance, mais c'est vrai qu'il y aura moins ce côté-là.
Ce qui me fascinait, c'était la main du Uderzo.
Il faut savoir qu'il est né avec 6 doigts en plus à chaque main, et qu'il a été opéré quand il était petit pour en avoir 5.
Vous vous souvenez de ses mains?
Bien sûr, des mains de travailleur.
Incroyable. Enfin bref. En tout cas, c'était passionnant de parler de ces inséparables de l'histoire, Astérix et Obélix, avec vous, Mathieu Charrier. On vous retrouve demain samedi à 14h dans Clap, votre émission cinéma sur Europe 1. Et vous recevez qui pour évoquer les films de cette vie?
Ce sera Philippe Gueluc. On va parler d'un autre univers.
Un autre animal.
C'est ça.
Oui. On rappelle la sortie du Menhir d'Or, aussi donc signé Uderzo et Goscinny, en partenariat avec Europe 1.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'histoire qu'on raconte sans se la raconter.
C'est notre devise,
avec
Stéphane.
Avec un fil conducteur, des personnages qui n'auraient pas dû se rencontrer dans ce studio.
Jamais.
D'abord, on ne les a pas forcément invités, qui ont un point en commun, c'est qu'ils sont inséparables, comme nous maintenant. Vous commencez une phrase, je la finis, je commence une phrase, je la finis.
C'est vrai que c'est limite inquiétant, Stéphane. On passe beaucoup de temps ensemble, en tout cas.
Oui, bien sûr, tous les jours, déjà de 16h à 18h.
Exactement.
Alors, on accepte des intruses. voici donc
Clémentine Portier-Kaltenbach.
Vous savez, elle arrive, elle a la clé pour entrer dans l'intimité des grandes histoires.
Je ne sais pas où elle s'est procurée ses clés.
Elle ne fait pas couvrir les portes de l'histoire, elle baisse aussi les culottes.
Non,
ça va loin.
C'est fan. Hein.
Là,
en
l'occurrence, c'est le cas,
là, c'est vrai.
Clémentine.
Oui, c'est vrai.
Une fois n'est pas coutume.
Oui. Oh. Et donc, Clémentine, qu'y a-t-il sous ces culottes?
Oui, je sens que vous vous sentez concernée.
Oui.
Hein. Alors, je vous ai parlé de deux dictateurs monarchides. Hein. Vous avez déjà appris au passage que donc l'orchidée, ça désigne le testicule en grec. Donc déjà, vous êtes nettement plus au point qu'au début de mon récit. Et je vais commencer par évoquer Franco, si vous le voulez bien. Alors, les faits, c'est que Franco se bat pendant la guerre de 14. Et dans la nuit du 28 au 29 juin 1916, il a alors 24 ans, il n'est que capitaine. Et il est très grièvement blessé au bas-ventre au cours de la bataille du fort d'El Buitz. El Buitz, c'est pas loin de Ceuta, dans ce qui est une enclave espagnole au Maroc. Cette blessure au bas-ventre lui aurait fait perdre un testicule. En tout cas, c'est ce qu'affirme l'écrivain espagnol José María Zavala dans un livre intitulé « La vie secrète de Ramón Franco, frère maudit du caudillo ». Alors, comment Zavala peut-il affirmer ça avec tant d'aplomb? Parce que c'est quand même un peu spécial. Hein. Bon. Eh bien, figurez-vous que ça lui a été confirmé par une certaine Anna Puigvert, qui est elle-même médecin andrologue, et elle est la petite-fille de l'urologue personnel de Franco. Et donc, son grand-père, plus exactement, lui a très souvent raconté cette histoire en disant, ben voilà, Franco avait été blessé à El Buitz, donc, et cette blessure l'avait très probablement rendu stérile. Hein. Alors, quant à Hitler, il y a eu un scoop il n'y a pas si longtemps, en 2015, un vrai scoop hein, dans Bild, le journal allemand. C'est un universitaire allemand, Peter Fleischmann, qui a mis la main sur une preuve absolument irrécusable. Alors, vous savez que Hitler, après le putsch, a fait de la prison. C'est en prison, après le putsch de Munich, il fait de la prison. C'est même pendant son séjour en prison qu'il va écrire Mein Kampf. Bon, Eh bien, 3 jours après ce putsch raté, on est donc le 12 novembre 1923, il doit subir une visite médicale comme tout nouveau détenu de la prison de Landsberg. Et donc, il a affaire à un médecin qui s'appelle Joseph Steiner-Brin. Et Fleischmann, l'universitaire, a retrouvé ce rapport de la visite médicale d'Hitler. Et le rapport en question dit que la santé d'Hitler est assez satisfaisante, mais sur le rapport, il est écrit en petit « crypto-orchidie du côté droit ». Voilà.
Crypto.
Donc, crypto-orchidie, crypto qui n'existe pas, c'est la crypte, c'est l'absence. Et donc ce document prouve qu'Hitler était bien monorchide, mais que ça n'avait pas été provoqué par une blessure de guerre, comme ça a été le cas pour Franco, contrairement aux rumeurs, mais qu'il avait ça de naissance. Et le journal Die Welt, cette fois, écrit à ce sujet « il n'est pas certain qu'il avait des relations sexuelles ». La honte vis-à-vis de cette anomalie visible pourrait avoir eu des conséquences. Il est en outre probable qu'il ait été stérile. Hitler.
Vous voulez dire qu'il a fait toute la guerre, qu'il nous a envahis tous à cause de ça.
Et oui, Hitler est franco stérile. Alors point d'interrogation, parce que évidemment Hitler.
Franco n'était pas stérile. Il a eu des enfants.
Alors c'est toute la question. C'est que Hitler, on ne sache pas qu'il ait eu une descendance, mais Franco, il a eu une fille unique, Maria del Carmen, surnommée Carmencita. Eh ben, née en 1926, elle est morte le 29 décembre 2017. Alors, mais est-ce que Franco était son vrai père? C'est bien le dossier, ce qu'écrit l'écrivain espagnol José María Zavala.
Oui, vous l'avez toujours traité comme la fille de Franco, sans jamais douter que peut-être elle n'était pas la fille.
Elle est la grand-mère d'un de mes copains.
Bah oui, mais écoutez, en tout cas, Stéphane, en 2009, ce livre, ça avait vraiment. Quand je vous dis que ça fait couler des hectolitres d'encre, parce que officiellement, Maria del Carmen, Carmencita, elle est née le 14 septembre 1926. Ouais. Mais Pilar, la sœur de Franco, date la naissance de sa nièce de 1928. Alors il y a une rumeur qui a beaucoup circulé parce que il n'existerait aucune photo de l'enfant en bas âge, aucune photo de sa mère enceinte. Certains biographes s'étonnent que le Codillo, qui était tout à fait opposé à la contraception, ils se marient en 23 et Carmencita est censée naître en 26 et voire même en 28 d'après la sœur de Franco. Donc elle serait née 5 ans après le mariage, alors que Franco était super opposé à la contraception. Ça vous paraît
Mais peut-être qu'il n'y arrivait pas louche, justement. Alors, il a eu du mal.
Bah, il a peut-être eu du mal. Mais
Il y avait un tout petit filet.
Bah, il y avait peut-être un petit problème. En tout cas, la théorie de José María Zavala, c'est que si vous voulez, dans la famille de Franco, il y avait un mouton noir. Le frère cadet de Franco, le très beau Ramon Franco. Alors, il est beau comme un dieu. Je suis allée regarder sur Internet, bien sûr, qui était un héros national, un aviateur très célèbre pour avoir traversé l'Atlantique en hydravion. Les Espagnols l'adoraient. Il était franc-maçon, très opposé à la monarchie, à la dictature de Primo de Rivera. Et il s'est présenté aux élections au moment de l'avènement de la République, à Barcelone et à Séville. Et en Andalousie, les candidats sur la liste révolutionnaire. Donc la liste révolutionnaire qui prône la distribution des terres, la participation des ouvriers au bénéfice de l'entreprise et aussi la liberté religieuse. Bref, c'est un petit frère quand même extrêmement gênant. Or, dans ses folles années de jeunesse, Ramon s'était entiché d'une jeune prostituée surnommée la Gaviota qu'il a rencontrée à Algeciras. Il a vécu quelque temps avec elle. Elle est tombée enceinte. Et elle est morte 5 jours après avoir donné naissance à une petite fille.
Oh, je vois où vous
voulez
en venir.
Donc suivez le raisonnement, mais c'est Zavala. Eh bien, il y a un ami de Ramon, un certain de Velasco, qui affirmait que cet enfant a été recueilli puis adopté par la femme du futur dictateur d'Espagne. Voilà. Ramon lui a disparu de la circulation, puisque façon Saint-Exupéry, son avion s'est abîmé en mer le 28 octobre 1938, près de Majorque. Donc la petite fille n'avait plus ni père ni mère. Où est-elle passée ? A-t-elle été adoptée par Franco ? Oh là. Est-elle la fille de Ramon et de la Gaviota, une prostituée andalouse ?
Ça nécessite un dîner. Vous devez organiser
Seul
très vite un dîner.
Un test ADN pourrait évidemment établir la lumière sur cette question.
Mais est-ce que la famille le sait, tout ça ?
J'espère qu'ils écoutent Europe 1 cet après-midi.
Stéphane, je pense que quand le livre est sorti en 2009, ça m'étonnerait que la famille n'en ait pas entendu parler. Ça se trouve, ils ont dû poursuivre l'auteur, d'ailleurs. En tout cas, quoi qu'il en soit de cette histoire de monarchie, je vous invite, en conclusion de cette chronique, à méditer toute cette histoire des deux plus grands dictateurs du XXe siècle, qui avaient des petits problèmes, à la lumière de cette phrase de Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe. Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou plus méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité. Qu'est-ce que vous dites de ça ?
C'est très bien vu.
C'est très juste.
Ce qui m'effraie, c'est que penser que M. Hitler envahi toute l'Europe, a tué des millions de gens simplement parce qu'il lui manquait un testicule.
Oh, bah, il était aussi un peintre raté.
Oui,
il avait aussi combattu en 14 et perdu la guerre. Enfin, il y a quand même un certain nombre d'explications.
Oui.
Et puis on dit qu'il est, il descendait lui-même d'une femme de ménage juive. Enfin, vous voyez, c'est pas simplement l'absence d'un testicule, mais enfin, quand même, c'est un éclairage intéressant sur ces deux messieurs.
Oui, ces deux messieurs.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est à présent une séquence clé de notre émission à l'issue de laquelle Stéphane Bern s'exclame souvent dépité.
Non mais j'ai honte.
Et souvent il faut dire qu'il y a de quoi. C'est
non,
l'heure
non,
du quiz.
Pas,
ce mano à mano sans pitié qui oppose chaque jour Stéphane et Clémentine. Est-ce
on
que
était
vous êtes
encore inséparables il y a deux secondes et maintenant vous me trahissez un couteau dans le dos.
Astérix Obélix aussi s'engueule, oui. Il se chamaille parfois pour rire et à la fin on fait un grand banquet. Vous inquiétez
oui,
pas.
Sûr.
Question numéro 1 pour vous Stéphane Bern. Question préhistoire. Vous n'êtes pas hyper balèze en
préhistoire.
Avant les rois et les reines, avant les monarchies, vous n'êtes pas béton.
Il y avait
il y avait des choses, il y avait la préhistoire. Quels étaient les dinosaures qui avaient la plus grande espérance de vie? Ceux qui faisaient un mètre de haut ou les plus imposants?
Bah, ceux qui avaient un mètre de haut.
Vous pensez que les plus petits dinosaures étaient ceux qui vivaient le plus longtemps?
Oui, parce que...
Oui, parce que... Alors là, c'est intéressant.
Allez,
c'est...
Laissez-le déployer son raisonnement.
Vous avez tout à fait raison, Clémentine. Laissons-le. Écoutons le raisonnement du professeur Bern.
Éminent paléontologue.
Oui, c'est vrai. Non, on connaît peu le Stéphane paléontologue.
Nous buvons vos paroles. Oui.
Quand il y a eu la glaciation, les premières victimes ont été ceux qui ne pouvaient pas s'adapter aux nouvelles circonstances climatiques.
Oui.
Et donc, je pense que les plus grands ont été les premières victimes. Les plus petits s'adaptent toujours.
Donc, Mathieu Noël n'aurait pas survécu aux glaciations quaternaires.
Je serais décédé, vous auriez survécu. C'est
vous
n'avez
rien
d'un
dinosaure.
Oui. Alors, écoutez, la sophistication du raisonnement est intéressante. C'est une mauvaise réponse. Puisque 6 ans d'espérance de vie quand le dinosaure faisait 1 mètre et près de 70 ans d'espérance de vie pour les plus gros. Comme quoi, ça a parfois un avantage d'être gros. Question numéro 2. Clémentine Portier-Kaltenbach. En 1780, les Anglais posent leur drapeau sur les territoires australiens. Les Français, deux jours plus tard. Vrai ou faux?
C'est faux. C'est Saint-Alouarn qui a découvert l'Australie, qui était un officier, un second de Kerguelen, qui venait de découvrir l'archipel des Kerguelen. Il a posé la première pierre et puis les salves de mousqueterie et des pièces, enfin, et la bouteille avec un parchemin. Tout ce qui était à faire en bonne et due forme pour s'approprier un territoire au nom du roi de France. Malheureusement, il est mort quelques temps plus tard. Il avait 38 ans de diphtérie. Et donc, ce salopard de Cook en a profité pour expliquer que l'Australie était anglaise, mais pas du tout. L'Australie était une terre française. Et au lieu même où Saint-Alouarn a abordé, les Australiens ont mis une plaque pour accepter et constater qu'effectivement, la terre australienne aurait dû
Bravo,
être française.
Clémentine.
C'est un scandale. Ça m'est très douloureux de l'évoquer.
Bravo, Clémentine. C'est les meilleures réponses sont celles qui sont fausses. C'est une mauvaise réponse, Clémentine Portier-Kaltenbach, à l'issue d'un raisonnement et d'une explication de texte admirable. Alors, je ne sais pas, il va y avoir débat. Peut-être allez-vous casser la gueule à celui qui prépare les questions. Peut-être y a-t-il un piège. Je reformule tout ça pour que nous y voyons plus clair. En 1780, les Anglais posent leur drapeau sur le territoire australien. Les Français, deux jours plus tard. Vrai ou faux? La réponse, c'est vrai. C'est le comte de la Pérouse qui arrive trop tard. Les Anglais, pour le consoler, baptiseront une île de son nom. Que dites-vous à ça? Que répondez-vous?
Non, je dis que c'est faux. Dis que c'est Saint-Alouarn, l'authentique découvreur de l'Australie.
C'est Portier-Kaltenbach contre la personne qui s'occupe de ce quiz et dont nous ne donnerons pas le nom à l'antenne pour ne pas l'accabler.
Ça vaut mieux, il peut numéroter ses abattis.
Nous allons vérifier.
Oui, parce qu'elle conteste tout.
Elle conteste tout parce qu'elle ne supporte pas de perdre. Mais peut-être... mais qui sait? Peut-être a-t-elle raison. Oui, monsieur Cadédral, me signale-t-on en régie. On rappelle que Stéphane avait inventé un nombre de
cathédrales. Écoutez, sur la taille du hot dog et de la galerie des glaces, je veux bien m'effacer avec fair play, mais là, il y a quand même des limites. Hein.
Pendant que nous continuons ce petit jeu qui ne doit pas dégénérer, Clémentine, nous sommes là pour nous amuser.
Moi, je perds avec beaucoup de panache.
Je me bats contre moi-même, je ne me bats pas contre vous, Stéphane.
Ah. Les meilleurs experts vont vérifier. Nous reviendrons sur cette question numéro 2. Pour l'instant, il n'y a pas de points attribués ou pas attribués. Nous verrons tout à l'heure. Question numéro 3. Pour vous, Stéphane Bern.
Oui.
La première recette de dentifrice date de 400 ans avant Jésus-Christ. Vrai ou faux?
Oui, ça c'est certainement vrai, Stéphane. Parce que les Égyptiens se frottaient les dents avec un mélange de
Naturellement, je dirais oui.
Mais avec de la lentille.
Méfiez-vous de votre nature, mais je ne sais pas, non, peut-être.
Il y a du charbon si après on a.
Oui,
on
ça
a...
revient, ça, le charbon. Vous avez essayé ça?
Très mauvais.
Oui, pourquoi c'est très mauvais? C'est un dentifrice tout noir.
Oui, après, c'est tout noir, c'est dégueulasse, oui. Mais il paraît que c'est très efficace. Mais enfin, bref, la réponse à la question. Vous dites oui?
Vous avez.
Vous avez gagné, Stéphane.
Pour une fois.
Mais c'est fou. On a retrouvé un manuscrit égyptien décrivant une recette de dentifrice faite de sel, de poivre, de feuilles de menthe et de fleurs d'iris, figurez-vous.
Et oui.
400 ans avant Jésus-Christ. C'est dommage qu'il l'oubliait ensuite à la cour du roi de France sous Louis XIV. Visiblement, ils avaient complètement oublié la pâte à dents.
Oui, c'est vrai.
C'est bizarre, cette déperdition de l'hygiène bucco-dentaire.
Je pense que c'était lié à ce qu'on mangeait aussi.
Oui, parce qu'ils mangeaient beaucoup trop sucré.
Très sucré.
Clémentine, voici une question intéressante pour vous. Les premiers vestiges péruviens datent de 19 000 ans avant notre ère. Fascinante Amérique du Sud. Au Pérou, si vous commandez un jugo de rana, c'est un jus de grenouille. Vrai ou faux?
Rana? Rana serait la grenouille.
Jugo de rana.
Non mais il faut que vous me présentiez celui qui fait les questions. Là. Je vais aller...
ouais, vous l'avez déjà croisé dans le couloir.
Oui, je vais
vous
faire une petite mise au point. Là. Le jus de grenouille, de moins 19 000 ans avant Jésus-Christ, on aurait écrasé des grenouilles. Écoutez, je dirais oui, c'est vrai.
Au petit bonheur la chance, un petit peu,
oui,
Clémentine.
Ouais, hein, ouais, je dois vous avouer, oui.
Vous avez gagné.
Et comme
vous, vous ne réfléchissez pas, vous répondez mieux. C'est la bonne réponse. Ce sont des grenouilles du lac Titicaca. L'animal est passé au mixeur, servi avec des haricots, du miel et de l'aloe vera. C'est très bon si vous avez de l'asthme, paraît-il.
Oui, bien sûr. Puis les Incas avaient inventé le mixeur, donc ça a aidé à faire la préparation.
Stéphane, aujourd'hui, ça aurait pu être une belle victoire pour vous.
Oui.
Si et seulement si Clémentine Portier-Cadévac n'avait pas été si érudite. C'est-à-dire qu'elle va plus loin que les manuels d'histoire traditionnels.
Oui, elle va à l'encontre des manuels d'histoire.
Elle va à l'encontre, mais elle a visiblement ses sources. Et si elle nous dit que ce sont les Français qui ont découvert l'Australie en premier et qu'il y a des oubliés de l'histoire, comment vous l'appeliez?
Saint-Alouard, monsieur Saint-Alouard.
Eh bien, nous la croyons, puisqu'elle est notre spécialiste.
Et je vous en apporterai
et nous
les preuves.
Nous validons le point en attendant qu'elle nous apporte les preuves lundi, évidemment. C'est donc Clémentine Portier-Caltana qui remporte le quiz au nez et à la barbe qu'il n'a pas de Stéphane Bern.
h 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui booste votre bonne humeur sans jamais endommager vos neurones. Vous connaissez notre principe, Stéphane Bern. Chaque jour, trois personnages que les siècles séparent. Mais on les met ensemble et on arrive à trouver un thème commun. Aujourd'hui, ils sont six. Pourquoi donc?
Mais parce qu'ils sont inséparables. Et 3 × 2, ça fait 6.
Vous êtes aussi fort en mathématiques qu'en histoire, Stéphane.
C'est simple.
Vous êtes
donc,
vraiment étonnant.
Si vous prenez trois personnages qui sont deux...
Ça marche. Alors, on a parlé d'Astérix et d'Obélix.
Oui.
Et de qui vous allez nous parler ensuite comme
inséparables? Eh bien, je vais vous présenter Cheng et Heng Bunker. Vous les connaissez?
Non, on n'a pas été présentés, non.
Eh bien, ce sont les premiers jumeaux siamois célèbres de l'histoire. Et comme ils viennent du Siam, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de gens qui sont très attachés l'un à l'autre, de frères siamois.
C'est logique. De mon côté, Stéphane, je vous parlerai d'inséparables plus proches de nous. Ils ont fondé leur marque ensemble, ils se sont même mariés, ils ont tout fait ensemble.
Comme ils s'accentuent la fatigue en qui?
Je vous raconte la success story des inséparables Dolce & Gabbana, les batailles et fontaines du chic.
Je crains le pire. Sans oublier nos brillants chroniqueurs qui sont inséparables aussi, avec David Castello-Lopez qui nous parle de l'origine des inventions.
Oui, et toujours plus proche de nous, toujours plus proche de notre quotidien,
c'est vrai,
David,
parce que
aujourd'hui.
Des choses qu'on voit tous les jours et on se dit, tiens, ça vient d'où?
Comme on avait beaucoup de messages sur le béton armé, j'en avais dit ça nous parle, le béton armé. Maintenant, à chaque fois qu'on croise du béton, on sait d'où ça vient, ça nous aide. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un autre objet de notre quotidien.
Exactement, c'est le porte-container.
Ah,
on a chacun un porte-container chez soi.
Oui,
les conteneurs qui vont avec. Non, mais c'est un objet très important. Mais s'il n'est pas dans notre quotidien, en fait, il est partout.
Plus important dans notre quotidien, Stéphane.
Oui,
un de vos plats préférés.
Oui, l'endive au jambon.
Et je me rends compte qu'en fait, je colle parfaitement au thème de l'émission parce que ce sont finalement des inséparables aussi, hein, l'endive et le jambon.
Oui. Mais il vaut mieux les manger ensemble parce que l'endive toute seule, c'est quand même difficile. Hein.
Ah ben, j'essaierai quand même un jour de vous convaincre. C'est pas mauvais.
Moi, j'aime bien.
Qui aura le mot de la fin? Pas vous, Olivier, pas vous, David. Non, il y a une hiérarchie dans cette émission. Le mot de la fin, c'est Stéphane Bern qui l'a.
C'est pas une question de hiérarchie, c'est une question d'idée. Voilà, le mot de la fin, c'est avant de se quitter, eh bien, on verra qui a été la tête de Turc.
Eh bien, la tête de Turc, j'espère que je ne suis pas votre tête de Turc, Stéphane.
Non, vous n'avez pas une tête de Turc.
Non, je ne sais pas, mais vous m'expliquerez d'où ça vient. Tout de suite, Stéphane vous avez promis de me présenter à Chang et Hung Bunker. Ne les faisons pas attendre.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Oui, dans la catégorie des inséparables, il peut arriver effectivement qu'on soit soudé pour d'autres raisons. C'est le cas des jumeaux, vrai ou faux, on sait qu'ils sont souvent très proches l'un de l'autre. Et puis, il y a ceux qui sont soudés pour de bon au sens littéral du terme. Et comme on s'interroge tous les jours dans Historiquement Vôtre sur l'origine des expressions, celle de frère siamois, eh bien on la doit à deux frères, nés au 19e siècle dans l'ancien royaume du Siam, la Thaïlande d'aujourd'hui, Heng et Chang Bunker.
Là, vous avez tenté une prise d'accent thaïlandais.
Oui,
c'est quand on n'arrive même pas grotesque. À prendre l'accent belge, on ne prend pas l'accent thaïlandais.
Oui, c'est une erreur.
C'est difficile quand même, mais c'est une belle tentative.
M'excuser.
On la salue.
Non seulement les deux frères étaient jumeaux, mais ce sont des jumeaux fusionnés. Leurs embryons se sont en quelque sorte mélangés pendant la grossesse et dans leur cas, la liaison s'est faite au niveau du sternum. Les deux jumeaux étaient réunis par une bande de muscles et de cartilage de 13 cm sur 20. Aujourd'hui, la chirurgie permet en général de séparer des frères siamois. Mais en 1811, la question ne se pose même pas. Et comme Heng et Chang sont en parfaite santé, moralement et physiquement, ils grandissent et vivent aussi naturellement que possible. D'autant que cette bande de chair qui les relie est assez élastique pour leur permettre de marcher côte à côte sans trop de gêne. Et ça peut sembler incroyable, mais ils mènent une vie presque normale, celle de deux petits paysans du Siam qui aident leur mère à la ferme. Et puis, en 1824, un commerçant écossais qui passe par là repère les deux frères en train de nager dans la rivière.
Ils arrivaient même à nager.
Et cet homme, Robert Hunter, flaire tout de suite le bon coup. Il décide d'engager Heng et Chang dans l'idée de les exhiber dans un freak show. Vous savez, ces sortes d'expositions vivantes typiques du 19e siècle, quand le public payait pour voir ce qu'on appelait encore des monstres. Des nains, des géants, des colosses, des femmes à barbe, des prétendues sirènes, bref, des gens au physique particulier comme Joseph Merrick, l'homme qui a inspiré David Lynch pour le film Elephant Man. Il va falloir un peu de patience à Robert Hunter, mais il finit par convaincre Chang, Heng et leur maman de signer un contrat de 5 ans avec lui. En 1829, les deux frères débarquent aux États-Unis, à Boston exactement. C'est le début d'une longue carrière de spectacles et d'exhibitions dans tout le pays, puis dans le monde entier. Le public se rue pour voir les démonstrations des deux frères siamois. Ils courent, ils sautent, ils nagent, ils jouent aux échecs et proposent toute une série de sketchs et de tours de magie. Tout ça pour la modique somme de 25 cents des années 1830, l'équivalent de 6 dollars aujourd'hui.
Mais Stéphane, on est véritablement certain qu'il n'y avait pas de trucage.
Ah ça, je vais vous dire Mathieu, il n'y a pas eu beaucoup de patients plus examinés, plus étudiés que les deux jumeaux. Il n'y a aucun truc, ils étaient bel et bien soudés au niveau de la poitrine, des dizaines de médecins l'ont confirmé. Mais tout le talent des deux frères, c'est qu'ils ont fini par refuser d'être exhibés comme des bêtes de foire pour faire la fortune des autres. Ils ont appris l'anglais et ont tout fait pour s'éduquer dans l'idée de reprendre le contrôle de leur existence. Et ils y ont réussi. Bon, il y a eu des hauts et des bas, la guerre de sécession a été un moment très difficile, mais toute leur vie, ils ont enchaîné les spectacles et les tournées dans le monde entier, en s'associant parfois avec des stars du show business, comme Phineas Barnum, le créateur du cirque Barnum. Mais à chaque fois, c'était en tant qu'associés, pas comme des salariés plus ou moins exploités par des montreurs de monstres. Et tout cela leur a permis d'accumuler une jolie petite fortune et d'acheter une belle propriété dans le sud des États-Unis, en Caroline du Sud, avec des terres agricoles tout autour. Ils se sont diversifiés, on peut même dire, je veux dire, ils se sont embourgeoisés. Après avoir été naturalisés américains en 1839, ils ont pris un nouveau nom de famille, Bunker, et ont commencé à mener la vie aisée des riches planteurs sudistes, parfaitement intégrés à la bonne société locale. Et non seulement ils ont acheté une bonne vingtaine d'esclaves, sans très bien les traiter hein, d'ailleurs, mais ils ont fondé une famille, enfin deux familles, chacun la sienne.
Mais ça devait être un peu bizarre dans l'intimité quand même, Stéphane.
Bon, je vous dis Mathieu, je ne tiens pas franchement à savoir comment ça s'est passé dans le détail. Mais non seulement Heng et Chang Bunker ont épousé deux sœurs, Adélaïde et Sarah, mais ils ont eu 21 enfants.
21 enfants
ouais. Peut-être qu'ils avaient appris des choses pendant leur tour de magie. Tout ce qu'on sait de leur vie privée, c'est qu'ils vivaient alternativement dans deux maisons voisines, à chaque fois pour 3 jours. Chaque jumeau s'engageait à se faire discret, le temps où il vivait dans la maison de son frère.
Mais ça doit être quand même tentant parfois de retrouver sa liberté, comment ?
Sans doute, Mathieu, d'autant que les deux frères étaient assez différents. Heng était réputé pour être agréable mais silencieux, alors que Chang était plutôt impétueux et bon vivant. Le genre à ne jamais refuser un tour au bordel ou une soirée de beuverie.
Oh, on en connaît d'autres.
Et ça peut être compliqué quand on a un frère... Un frère siamois qui est abstinent ou qui milite pour la Ligue anti-alcoolique.
C'est alors... sûr qu'il doit y avoir des sacrés débats. Ils dépassent leur temps. On vous emmène. Allez, non, on y va.
Non, oui.
Pochetron.
Alors, on prétend, sans trop de preuves d'ailleurs, qu'ils ont pensé à tenter une opération.
Mais
les médecins l'ont en tout cas tout le temps déconseillé. Les risques étaient bien trop grands.
Est-ce qu'ils ont vécu longtemps ?
62 ans.
Pas mal.
Un record qui a mis longtemps à être battu et ils sont morts à quelques heures d'intervalle. Le 17 janvier 1874. Chang, qui était hémiplégique depuis 5 ans, est parti le premier. Heng a demandé à ce qu'on appelle un médecin pour tenter une séparation chirurgicale, mais il est mort très vite ensuite sans qu'on sache vraiment de quoi. On a dit que c'était de peur face au spectacle du cadavre de son frère collé à lui.
Mais quelle horreur!
Mais quand les médecins ont réussi à convaincre la famille de leur confier les dépouilles des deux frères, l'autopsie n'a rien montré d'évident. Elle a en revanche permis d'en apprendre plus sur le fonctionnement de leur organisme. Une fois les deux corps rendus à la famille, on a fait le choix de les enterrer, non pas dans un cimetière, mais sous la dalle de leur maison. Et oui, les frères Bunker étaient deux célébrités, Mathieu. Les familles redoutaient tout simplement qu'on ne vienne voler les corps pour les vendre à des collectionneurs un peu bizarres. Au moins, aussi bizarres que cette histoire.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour en savoir plus sur ces frères siamois qui sont entrés dans l'histoire, nous sommes avec le conservateur du musée des sciences médicales et de la santé à Rieux-le-Pape, Jean-Christophe Nédart, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Oui, alors votre musée, Jean-Christophe Nédart, abrite entre autres une collection consacrée à tous les types de malformations des êtres vivants. Ça s'appelle la tératologie. Mais qu'est-ce qu'on peut y croiser des frères siamois? Vous en avez en rayon?
Oui, on peut dire des choses comme ça. Oui, on en a quand même quelques-uns donc ici. Donc, et puis surtout différentes formes de monstruosité double en fait, parce que ce qu'on appelle siamois à l'heure actuelle ne recouvre pas que le cas typique de Heng et Chang Bunker. Il y a plusieurs types de monstruosité double, des monstres en X, des monstres en Y ou des monstres en lambda aussi.
Ça veut dire quoi ça, Jean-Christophe? Je comprends pas.
Les monstres en X, ça correspond aux siamois tels qu'ils sont représentés par Heng et Chang Bunker. Les monstres en Y, ce sont ceux qui ont deux têtes sur un corps.
Oui, d'accord.
Et les monstres en lambda, ce sont ceux qui ont une tête et deux corps qui partent de la tête. En fait, la tête, ce sont deux têtes fusionnées.
Oh là là.
Donc, Stéphane est dévasté, il visualise. Est-ce que c'est des choses très différentes, en fait? On dit siamois pour des choses qui n'ont rien à voir, parce que parfois, il y a un seul organisme avec, par exemple, deux têtes. Et là, les frères Chang et Heng Bunker, c'était deux individus qui étaient juste reliés par un...
Aujourd'hui, on les aurait séparés enfants, disons.
À l'heure actuelle, on aurait pu les séparer sans aucune difficulté. Hein.
Oui, parce qu'il ne leur manquait pas d'organes, en quelque sorte. Les deux pouvaient être autonomes. Ils étaient seulement reliés par une bande de chair.
Il y avait une bande de chair qui les reliait l'un à l'autre. Le foie a été conservé. Il se trouve au musée Mutter de Philadelphie. Alors on parle de foie joint. En fait, il y a plusieurs observations qui évoquent le fait qu'en réalité, c'était juste un pont cutané qui existait entre l'un et l'autre avec un petit peu d'épiplomb qui est une membrane. Je vais rentrer dans les détails. Et un vaisseau qui passait entre les deux. Et quand on regarde le foie qui a été conservé, on se rend compte en effet qu'il n'y a pas réellement de jonction des deux fois. Donc, une tentative de séparation aurait pu être
possible. Surtout que l'un buvait et pas l'autre.
L'idée a été avancée, puisqu'on les a emmenés chez une pléthore de médecins pour étudier la possibilité éventuellement de les séparer. Et alors, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on se demande un petit peu si on les a emmenés chez le médecin dans l'idée de les séparer, ou si c'était le moyen pour les impresarios d'avoir un certificat garantissant qu'il s'agissait pas d'une escroquerie. Et ça, on le voit dans l'histoire à de très nombreuses reprises, cet acharnement, comme dit des impresarios, à emmener leurs monstres chez les médecins, et très probablement pour avoir un certificat.
Est-ce que ce sont les premiers siamois de l'histoire? C'est ça qui m'a étonné dans l'histoire que nous a raconté Stéphane, c'est qu'on a du mal à penser que ça soit la première fois qu'on ait des authentiques siamois dans l'histoire du monde. Il y a dû y en avoir d'autres avant. Ce sont les premiers médiatisés, ou les premiers qui ont survécu longtemps, mais certainement pas les premiers.
Alors, les premiers Siamois, oui et non. Premiers Siamois, oui, puisque c'est eux qui ont donné leur nom à toute cette catégorie de monstruosité double. En fait, bon, l'histoire est peuplée de monstruosité double, puisque la plus ancienne représentation qu'on connaisse à l'heure actuelle, c'est une statuette qu'on appelle la déesse à deux têtes, qui a été retrouvée en Cappadoce, qui est conservée à Ankara, d'ailleurs, et qui remonte au 6e millénaire avant Jésus-Christ.
Mm-hmm. Il y en a eu d'autres avant.
On a également vers moins 80 une représentation de monstres doubles, hein, c'est représenté sous forme d'un bas-relief, de deux jumeaux qui sont unis par le pubis, et la pièce est d'ailleurs conservée à Florence. On a également des représentations dans l'Amérique précolombienne, avec plusieurs statuettes qui représentent des Siamois.
Mais à partir de quand est-ce que le regard du public a changé sur les Siamois? Parce que, vous le dites très justement, pendant longtemps, c'était l'affaire des montreurs de monstres, en quelque sorte. C'était une curiosité qu'on venait voir. Et puis, ensuite, ça a été l'affaire, et tout récemment, des médecins.
Tout simplement,
c'est, l'idée de les séparer. Donc, il y a eu un changement dans les mentalités vis-à-vis de ces monstruosités et ces malformations physiques.
Oui, il y a un changement dans les mentalités, mais l'idée de la séparation, elle est quand même très ancienne. Il y a plusieurs exemples qui sont recensés dans l'histoire. Alors bon, soyons clairs, hein, ça peut être réel, ça peut être aussi un petit peu de la légende. Il ne faut pas nécessairement se fier à toute la littérature qu'on a sur ce sujet. Qu'est-ce que je pourrais vous citer? Il y a eu des tentatives de séparation de deux Siamois, par exemple, en Cappadoce, hein, donc également dans l'actuelle Turquie. Ça, c'est en Cappadoce ou à Constantinople. C'était au Xe siècle, où l'un des jumeaux, on les appelait aussi parfois à cette époque-là comme ça, l'un des jumeaux étant mort, le survivant, on a tenté une séparation et le survivant a vécu 3 jours.
C'est ça qui est terrible, c'est quand on laisse vivre. C'est l'histoire que je racontais, c'est terrible quand l'un meurt. Donc en plus, l'autre doit vivre allongé.
Mais là, dans le cas des frères Bunker, ce qui n'est pas clair, c'est qu'on ne comprend pas trop pourquoi il est mort, parce qu'ils n'avaient pas d'organes, si peut-être le foie, ce n'est pas clair. C'est-à-dire, effectivement, s'ils partageaient un tant soit peu leur foie, ils ne pouvaient pas vivre longtemps.
Oui, c'est pas très clair, mais il faut partir du principe que dès l'instant où une personne, quand on est dans ce cadre de gémelléité un peu spéciale, va décéder, il y a évidemment des communications entre l'un et l'autre, mais le corps qui n'est plus irrigué par un cœur qui fonctionne va se corrompre très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre à côté va mourir d'infection à terme.
À terme, effectivement.
Et un dernier mot avant de nous séparer, Jean-Christophe Nédart, qu'est-ce qu'il y a à voir dans votre...
Ah oui.
Parce que vous m'avez donné vraiment envie d'aller visiter le musée des sciences médicales et de la santé à Rieux-la-Pape, qui est à côté de ma ville de Lyon.
Oh bah déjà, on vous accueillera avec beaucoup de plaisir.
Oui, ben ça, on va venir avec Mathieu, parce que ça nous intéresse. Alors racontez-nous,
qu'est-ce
qu'on peut voir
dans votre collection? Oui.
Alors, bon, il y a évidemment la collection de tératologie, hein, donc qui est une petite collection parce que pratiquement 2 siècles et demi, ça représente à peu près 140 à 150 pièces conservées dans une collection qui est dédiée à l'obstétrique en général, à gynéco-obstétrique, qui comprend plus de 1000 pièces. Hein. Et tout ça, ça se trouve dans un ensemble qui comprend évidemment d'autres disciplines, comme la pharmacie, comme l'art dentaire, l'anthropologie criminelle, l'histoire de la chirurgie ostéo-articulaire, les grands progrès médicaux, tendu l'anatomie normale, et qui constitue en fait probablement ce qui est l'un des plus importants musées des sciences médicales existantes à l'heure actuelle, sachant en plus qu'on a une spécificité, c'est qu'on est généraliste, c'est-à-dire qu'on n'est pas focalisé sur une discipline comme la dermatologie à l'hôpital Saint-Louis par exemple, ou la médecine militaire au Val-de-Grâce, ou l'anthropologie criminelle à Vienne ou à Turin.
Il y a les gueules cassées au Val-de-Grâce, c'est superbe. On n'a qu'une envie maintenant Mathieu, c'est on prend notre billet et on vient voir le musée des sciences médicales et de la santé à Rieux-la-Pape. Merci beaucoup Jean-Christophe Nédart.
Écoutez, je vous remercie.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les inséparables de l'histoire après Astérix et Obélix, et Heng et Chang Bunker, les frères Siamois. À vous Mathieu d'évoquer deux inséparables plus proches de nous, deux noms indissociables et mondialement connus qui sont réunis par une esperluette.
Une esperluette, vous aimez bien ce mot. Oui, hein. Oui Stéphane. Pour certains chanceux comme vous qui avez les moyens, ces deux noms gravés au revers de votre slip font partie de votre quotidien.
Ah, les faux, les
quand chaque matin vous hélez Pablito, votre assistant portoricain, à qui vous avez promis de rendre son passeport d'ailleurs après 5 ans de service car vous avez un cœur et qu'il vous tend votre slip Dolce Gabbana. Merci brave Pablito.
L'Esprit Saint viendra sur toi.
Achetez-vous alors non sans un certain paternalisme. Pour nous autres, pauvres salariés, la prestigieuse marque Dolce Gabbana reste un rêve souvent inaccessible dont on s'offre un ersatz une fois l'an à Djerba dont on revient toujours avec quelques chemises siglées Dolce Banana. Derrière la marque mondialement connue, il y a deux hommes, deux Italiens issus l'un du nord de l'Italie
et l'autre du sud de l'Italie.
Ah non, pourquoi c'est la même musique et la même parenthèse?
On a une seule musique pour l'ensemble de l'Italie, nord et sud confondus. Mais je vous jure que si un jour une de mes enquêtes nous mène en Sicile, par exemple, là, ça sera très dépaysant. Bref, Dolce et Gabbana, c'est Domenico Dolce et Stefano Gabbana. 212 boutiques dans le monde, des lignes de vêtements, une collection de montres et bijoux, des parfums et même un restaurant. En 2012, leur chiffre d'affaires dépasse le milliard de dollars. Je sais ce que vous vous dites, Olivier, ça en fait des slips et des vongolais, mes cochons. Eh bien, dans un de ces numéros, la revue Itinerari e Luoghi a publié un sondage auprès des jeunes Italiens. Figurez-vous que selon eux, le couple le plus romantique de toute l'histoire serait Roméo et Juliette, suivi de très près par Domenico et Stefano. Rien que leur nom déjà, Domenico et Stefano. Pourquoi ces sigles amour? Pourquoi Domenico et Stefano, tu visualises tout de suite un couple de stars fendant l'écume du lac de Côme au volant d'un Riva. Alors que tu dis Dominique et Stéphane, tout de suite tu visualises un couple de sexagénaires en train d'abaler un crottin de chavignol dans leur maison d'hôte du Perche. No offense, Stéphane, c'est peut-être le destin qui vous attend. Non, Stefano et Domenico. Ah non, mais à long terme. Non, Stefano et Domenico. Oui, mais c'est pour ça, un horizon lointain pour vous, c'est très longtemps. Stefano et Domenico, déjà les prénoms claquent. Et que dire des noms ? Dolce et Gabbana. Il y a des noms comme ça qui sont faits pour la célébrité, qui pour ainsi dire l'appellent. Tout l'inverse de notre néanmoins excellent invité de l'autre jour, Nous sommes avec Charles j'arrive pas à le dire.
Bonjour.
Charles Zorbib.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Bonjour Charles Zorbib. Charles Zorbib, les éminences grises, le livre de Charles Zorbib.
Dolce et Gabbana, eux, avaient des patronymes beaucoup plus prononçables et à mon avis, ça a fait beaucoup dans leur succès. Une success story commerciale mais aussi sentimentale. Or, assez ironiquement d'ailleurs, leur histoire d'amour est devenue publique, en tout cas médiatisée, à l'annonce de leur séparation amoureuse en 2005 après plus de 20 ans de relation. Motif de la rupture, oh, rien que de très banal. Après avoir découvert avec gourmandise les aventures des facétieux John Bear, Johnny Depp et Amber Heard, on est franchement déçu par ce divorce-là. Pour des people, ça manque prodigieusement d'imagination. Pas la moindre tromperie avec Elon Musk, pas la moindre agression à coups de tessons de bouteilles de vodka, pas même un tout petit cacou au fond du lit conjugal. Non, même dans la séparation, Dolce et Gabbana ont su rester élégants. C'est juste la routine du quotidien qui les a éloignés. Dolce témoigne, il y a la passion des corps, de la chair, et puis il y a l'amour. Nous continuerons à habiter le même immeuble, mais sur des étages séparés. Ça, Stéphane, c'est une solution à laquelle les pauvres ne pensent jamais. Acheter tout un immeuble pour pouvoir, le cas échéant, déménager à un autre étage. Ça, ils n'y pensent pas. Grâce à cette ingénieuse idée, Domenico et Stefano pourront ainsi continuer à s'emprunter du beurre de micelle et un cruciforme si besoin, mais sans avoir de rapport sexuel. Ils sont désormais voisins platoniques et toujours joyeux collègues, parce que oui, malgré la rupture, Domenico et Stefano n'ont jamais cessé de collaborer. Au contraire, ils ont tout verrouillé pour que la variation de leur sentiments amoureux ne portent jamais atteinte au groupe qu'ils ont créé. Quand nous nous sommes quittés en tant que couple, dit Stefano, nous nous sommes dit qu'il était mieux de tout diviser, parce que si je prenais un coup sur la tête, lui le lendemain se serait retrouvé avec, par exemple, ma cousine qui n'y connaît rien et aurait ruiné l'entreprise. Là, je sais pas pourquoi, en lisant cet article, je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la pauvre cousine de Stefano Gabbana. C'est-à-dire que la meuf est caissière dans un Franprix, enfin, uno Franpreso, au fin fond des Pouilles. 30 ans qu'elle collectionne tous les articles évoquant son célèbre cousin. 30 ans qu'elle espère qu'un jour, au détour d'une interview, il va enfin lui faire un clin d'œil, mentionner son existence, leur lien de parenté. Et quand le clin d'œil tant attendu arrive enfin après toutes ces années, c'est pour apprendre qu'il a créé un trust pour que sa crétine de cousine, puisque c'est au fond ce qu'il dit, ne reprenne jamais les rênes du business qu'elle ferait couler par son incompétence crasse. On l'imagine facilement, Stéphane, la réaction de la malheureuse cousine à la lecture de l'article qui a dû se dire
« Putain ».
Oui, pas forcément vulgaire, Stéphane, mais effectivement, elle a dû être triste. Être inséparable, c'est bien pour ceux qu'ils sont, moins pour leur entourage, et c'est encore plus compliqué quand vous restez inséparable tout en étant plus en couple. Encore aujourd'hui, ce qui est à moi est à lui, et ce qui est à lui est à moi. Nos compagnons le savent. Si cela te convient, c'est bien. Si cela ne te convient pas, c'est la même chose, a expliqué Dolce, visiblement pas du genre à se laisser marcher sur les berloutis en amour. Quoi qu'il en soit, en ménage ou non, Dolce et Gabbana seront à jamais indissociables, à une exception près peut-être, puisque lors d'une interview, Domenico Dolce a déclaré « Peut-être sommes-nous toujours amoureux de nos mères ». À suivre, ces propos font l'objet d'un prochain portrait dans l'émission Fil Rouge, Freud et la consanguinité. Je salue enfin cette très belle initiative signée Stéphane Bern. Stéphane qui, à l'issue de cette chronique, a décidé de mettre aux enchères sa collection complète de 562 caleçons Dolce & Gabbana taille XS double poche coton bio.
Pour que Europe 1 s'en sorte financièrement.
Très beau geste, Stéphane. La direction vous remercie d'avance. Vous portez pas un petit peu cette marque-là ?
Mais non, je ne porte qu'une marque française, pour tout vous dire.
Ah c'est vrai, vous êtes vraiment patriote jusqu'au bout.
Patriote jusque dans le slip.
Patriote, jusque dans le slip.
En tout cas, merci Mathieu, c'était 99% vrai. Il y a donc 1% de
oui,
faux.
Bon, je crois que la cousine de Gabbana ne travaille pas dans un franc prix. Je crois savoir que non.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Et Stéphane Bern, l'aventurier des accents, n'a plus que 212 émissions pour réussir enfin l'exploit. Réussir à prononcer correctement le nom de ce chroniqueur qui ne supporte plus qu'on l'écorche.
David Castello-Lopez.
Caramba, encore raté Stéphane. David Castello-Lopez, chaque jour vous nous faites découvrir l'origine d'un objet du quotidien. Parfois on vous a rien demandé, hein, mais bon, vous choisissez un objet.
Oui. Aujourd'hui un objet qui contient des objets de notre quotidien.
Ça doit être très compliqué. Ça.
Exactement. Alors vous dites souvent quand même que je m'intéresse à des trucs qui n'intéressent personne, mais je pense que vous savez pas à quel point.
Vous vous levez le matin et vous dites tiens, voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Tiens, un porte-container.
Il y a quelques années, par exemple, je suis allé en Chine et j'ai fait un détour de 1000 km pour aller visiter une usine de radiateurs et j'ai passé un moment génial. Bon, malheureusement, j'avais traîné mon ami Brice, qui m'en veut encore.
Qui est toujours votre ami?
Mais oui, mais à part ça, c'était quand même trop bien. L'année dernière, je suis allé au Havre, et la première chose que j'ai faite, c'est de me précipiter sur le port industriel.
En même temps, au Havre, l'intérêt, c'est le port.
Et je ne sais pas si vous avez déjà visité un port industriel, mais c'est tellement beau. C'est des cathédrales d'efficacité les unes à côté des autres. Il y a les grues, les navires gigantesques, les containers empilés les uns sur les autres. On dirait des tableaux abstraits de la taille d'une tour de 15 étages. C'est super beau. Et en plus, ces containers, et les ports qui vont avec, c'est le socle sur lequel repose le commerce mondial. Alors moi, je les vois, ces boîtes de toutes les couleurs, et je me dis, il y a quoi à l'intérieur? Peut-être les radiateurs chinois que j'ai vu fabriquer? Peut-être des canapés? Peut-être de la cocaïne cachée dans des fausses télés? On ne sait pas. Et bien sûr, ça donne envie de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant qu'il y ait des containers et des portes-containers. Et il y a un économiste anglais, qui est aussi journaliste, qui s'appelle Tim Harford, et qui a écrit un livre dans lequel il décrit super bien ce qu'il y avait avant. Il prend l'exemple d'un navire marchand américain, le SS Warrior en 1954, qui transportait des marchandises entre New York et l'Allemagne. Et bien dedans, il y avait 200 000 objets séparés dans presque 1200 paquets différents, dont aucun n'avait la même taille ni la même forme. Et résultat, ça prenait des jours et des jours à charger et à décharger. Et en gros, le chargement et le déchargement du navire prenaient autant de temps que le voyage de New York en Allemagne. Et du coup, transporter des trucs sur des longues distances, c'était incroyablement cher. Et donc, on ne le faisait pas. On produisait des trucs juste à côté, là où on les consommait.
C'était peut-être mieux, finalement.
Et puis, la relocalisation, c'est pas mal.
Exactement. Et puis, un jour, en 1937, il y a un conducteur de camion de 24 ans qui s'appelait Malcolm McLean et qui était en train d'attendre depuis des heures que la cargaison de son camion soit déchargée. C'était une cargaison de coton, déchargée sur le port. Et il s'est dit... Si je pouvais mettre mon camion directement sur le bateau avec toutes ces marchandises dedans, on gagnerait un temps de malade. Et il a eu cette idée, mais il a mis 20 ans à la réaliser. Mais il y est arrivé. Et le 26 avril 1956, le premier porte-container du monde quitte le port de Newark dans le New Jersey pour celui de Houston au Texas avec 58 containers à son bord. Et en quelques dizaines d'années, c'est devenu la règle au point que ça a divisé le prix du transport maritime par plus de 8. Et les conséquences pour le monde, elles ont été gigantesques. Parce que comme ça coûtait plus rien de transporter des trucs, et ben les entreprises elles se sont dit bah, « on n'a qu'à foutre nos usines ailleurs, pourquoi pas en Chine ?» Et donc c'est pas du tout exagéré de dire que Malcolm McLean, avec son invention du container, il a tout simplement rendu possible la mondialisation avec ses côtés cool, hein, comme le fait qu'on ait des iPhones et puis aussi les côtés moins cool.
C'est fou parce qu'on trouvait ça anecdotique, ce sujet sur les portes-conteneurs.
Mais en fait, c'est passionnant.
C'est complètement central.
Vous nous avez scotché, David.
Oui,
je dis bravo.
Merci.
Est-ce qu'Olivier Poul sera aussi... Est-ce que vous allez nous épater autant avec l'endive aux jambons? Ça serait vraiment très fort de votre part,
challenge.
Olivier. Un gros challenge, à tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, ce n'est pas qu'un cours d'histoire décontracté, c'est aussi une émission qui pense à votre quotidien. Et si votre conjoint cuisine aussi mal que moi et que, en dégustant ses plats, vous vous exclamez comme Stéphane découvrant son avis d'imposition à l'IFI, c'est que vous avez besoin des conseils d'un vrai professionnel. Olivier Poul, vous êtes notre cordon bleu. Chaque jour, l'histoire d'une recette.
Et aujourd'hui, celle d'un plat qui m'est cher, c'était, je peux le dire, mon plat préféré lorsque j'étais encore enfant, il y a de nombreuses années, à Bruxelles, quand on faisait des chicons gratins, comme on dit chez nous, c'était la fête à la maison, l'endive au jambon.
C'était la fête pour un enfant de savoir qu'on aimait les endives.
Oui, j'adorais ça.
C'est quand même un autre peuple que nous, les Belges.
C'est possible,
hein.
mais peut-être parce que l'endive ou le chicon, c'est grâce à nous que vous en mangez.
Bien sûr,
mais c'est pas la meilleure chose que vous
Ah ben là, je suis pas d'accord.
Ah ben si, moi j'adore les endives.
Ben, on peut faire un petit sondage autour de cette table. David, une petite endive
Alors, vous adorez aussi.
Sans façon. Hein.
Je suis pas encore assez mûr, je pense, pour l'endive.
Ah, et en salade, même en salade avec des noix et du roquefort.
Ah oui, là je dis d'accord. Là, je dis
en salade.
Pour moi, c'est toujours moins. Ça peut aller quand il y a des endives, mais c'est toujours un peu moins bien. Voilà.
Mais alors, il faut savoir que l'endive n'est pas un légume naturel. C'est un légume inventée en quelque sorte par hasard.
Parce qu'en plus, on l'a inventée. Elle n'existe pas. On va faire un truc amer que les enfants vont pas pouvoir vous bouffer.
Et ben, elle n'existait pas avant 1830, figurez-vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en 1830, pendant la Révolution belge d'ailleurs, il y a un habitant d'une commune de Bruxelles qui s'appelle Scarbeck qui cache dans sa cave des plants de chicorée. Il avait peur qu'on vienne les lui piquer. Il les met dans sa cave et par-dessus, il met de la terre comme ça, ni vu ni connu. Il revient quelques jours plus tard et qu'est-ce qu'il voit? Ben, c'est qu'au bout de ces plants de chicorée ont poussé des feuilles blanches, évidemment, puisqu'il n'y a pas de lumière, donc il n'y a pas de photosynthèse et pas de chlorophylle. Et ces feuilles, ben, elles sont bonnes, elles sont, à condition d'aimer un peu l'amertume, hein, mon cher Mathieu, mais elles sont bonnes.
Oui, elles sont comestibles, dirons-nous.
Elles sont tout à fait comestibles. Et voilà comment est née l'endive. Alors, un peu plus tard, en 1850, un certain Frans Brézier, qui est le jardinier en chef de la Société d'horticulture belge, va lui mettre vraiment au point la technique pour la faire de manière régulière et pour avoir ce légume, ce qu'on appelle un légume forcé. Et ce légume va arriver 30 ans plus tard, vers 1880 seulement, à Paris, sous le nom d'endive de Bruxelles.
Pourquoi endive alors qu'on ne disait pas comme ça là-bas?
Oui.
Alors, pourquoi elle devient l'endive et non plus le chicon?
Le chicon.
Alors ça, il faudrait que je le vérifie parce que je n'en sais rien.
Vous n'en avez aucune idée parce que vous n'avez pas suffisamment enquêté.
Le premier nom, en fait, c'est Wheatloaf. C'est un nom flamand qui veut dire les feuilles blanches.
Blanches.
Voilà. Et ensuite, ça devient l'endive, le chicon de la chicorée. Et ensuite, l'endive de Bruxelles, dit-on.
Mais elles sont encore cultivées dans le noir, comme ça comme
oui, alors,
et
alors,
chez le marchand de primeurs, par exemple,
elles sont toujours recouvertes.
Jamais à la lumière du jour.
Et si vous mettez des endives à la lumière du jour, elle va se mettre à faire de la photosynthèse et elle va donc devenir verte.
Et les endives vertes, elles ont un nom aussi ou pas?
Non. Alors, ça s'appelle il y a plusieurs variétés d'endives aujourd'hui, notamment des pourpres.
Il ne faut pas qu'elle soit verte. Mais par exemple, si vous servez si c'est self-service, par exemple, dans les supermarchés, les supérettes, il faut bien recouvrir avec la feuille, parce que sinon, les autres qui passent derrière auront une endive qui sera moins
chère. Il faut aller prendre celles qui sont en dessous de la caisse, parce que celles-là, elles n'ont pas vu la lumière. Vous laissez celles du dessus.
Et alors, vous nous proposez une recette avec ces endives, pour comestibles encore, avec un peu de jambon.
Grand classique de la cuisine du Nord. Alors là, on n'a pas le nom de celui qui a eu l'idée géniale d'associer l'endive, le jambon, et la béchamel, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça ici, que l'on doit d'ailleurs à Monsieur Béchamel, le marquis de Béchamel, et évidemment le tout gratiné. Donc, cuisson des endives, très importante, ne les cuisez pas dans un grand volume d'eau, parce que l'endive étant une salade, en quelque sorte, elle va se gorger d'eau, et puis c'est pas terrible. Donc,
elle va dégorger, comme on dit.
Voilà, on la cuit dans un tout petit peu de la matière grasse et un tout petit peu d'eau, et surtout cette eau de cuisson, on la récupère. On la récupère parce qu'on va l'incorporer à notre béchamel. Alors la béchamel, je vous rappelle, un temps pour temps de beurre et de farine, 20 grammes de beurre, 20 grammes de farine, du lait, on rajoute notre eau de cuisson des endives, on fait bien épaissir tout ça, un peu de fromage râpé, pourquoi pas du comté, et pendant ce temps, on a légèrement essoré nos endives, on les roule dans des tranches de jambon, on recouvre de béchamel, on recouvre de fromage râpé, sel, poivre, un petit peu de muscade, tac, sous le grill du four. Et là, on a un plat que je trouve personnellement absolument délicieux. Je suis un fou des endives.
J'en adore ça. Merci Olivier Pouls. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site de
France Télé. Ça m'étonnerait que les recettes soient sur le site de France Télé.
S'ils veulent me payer pour les reprendre, je suis d'accord.
Pas, à la donné limite, l'habitude à la limite. De faire des lancements débiles. Merci Olivier Pouls. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr. Et puis on vous retrouve demain sur Europe 1.
Bien sûr,
à la table des bons vivants de Laurent Mariotte.
Il y passe la journée.
11h à 12h30 sur Europe 1.
Et chez Laurent Mariotte, il apporte à bouffer, contrairement à nous. Mais vous restez quand même là, Olivier.
Parce qu'en fait, il estime qu'à 16h...
il estime que c'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter.
J'estime surtout que si vous mettiez à ma disposition une cuisine dans ce studio, je pourrais vous faire manger.
Vous pouvez faire chauffer chez vous.
Oui, voilà, vous l'apportez. Très bien. Vous restez avec nous, les amis. En effet, comme Louis XIV, lorsqu'il allait à la selle, Stéphane Bern exige un public reste pour assister à sa chronique Les fins mots de l'histoire. Et cet après-midi, vous allez nous dévoiler, Votre Altesse, pourquoi on dit une tête de Turc.
Exactement.
Ça vient vraiment des Turcs ou ça n'a rien
oui,
à voir?
Oui, bien sûr.
Bah, sinon, tout est possible.
On dirait,
je ne sais pas.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Il présente Secret d'Histoire, mais il est si balèze en français aussi qu'il réfléchit actuellement à une variante secret de mots. Chaque après-midi, Stéphane, vous ponctuez notre émission en nous livrant le fin mot de l'histoire. Aujourd'hui, l'origine, comme d'habitude, d'une expression
tête de turc.
Oui, bah avant de vous donner l'expression du jour, je voulais vous confier quelque chose, Mathieu hein? Noël. J'ai parfois l'impression avec vous d'être dans historiquement votre le punching ball de service.
Enfin Stéphane, qu'est-ce que vous dites? Moi, je suis un agneau avec vous, jamais je ne me permettrai de faire de vous ma tête de turc.
Oui, et pourtant, tête de turc, eh ben, c'est l'expression du jour. Sans forcément remonter jusqu'aux croisés, pour l'Occident chrétien, le turc symbolise l'incroyant, le barbare, le combattant sanguinaire. Ces soldats étaient particulièrement redoutés. L'Empire ottoman règne jusque dans les Balkans et au XVIIe siècle, une autre expression est souvent utilisée, démontrant cette admiration, mêlée de crainte, on dit être fort comme un turc. Au XVIIIe siècle, l'univers turc fascine. Le café, les costumes colorés, les harems mystérieux, c'est la mode des sofas. Voilà. Des diwans, divans. Lamartine raconte son voyage en Orient. Dans les fêtes foraines, où l'on aime s'amuser autant qu'à se faire peur, une nouvelle attraction fait fureur. Pour mesurer sa force, on brandit un gros maillet et on tape sur un appareil censé évaluer sa puissance. L'engin est surmonté d'une tête ornée d'un turban. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a foule pour tenter sa chance. La pauvre tête étant frappée par pléthore de monde, cela a donné l'expression « tête de turc », désignant celle sur laquelle tout le monde se défoule.
Vous connaissez l'origine de cette expression parce que vous avez joué vous-même dans les fêtes foraines avec cette attraction ?
J'étais la tête sur laquelle on tapait.
N'importe quoi. Ils étaient un peu comme nous, Stéphane, inséparables. Vous savez que ma compagne m'a signalé que je passais dormir plus de temps avec vous qu'avec elle.
Bah vous l'embrasserez pour moi parce qu'elle est charmante. Bah,
si je la croise, Stéphane, en tout cas, on a encore bien voyagé aujourd'hui de la Thaïlande à l'Italie en passant par la Gaule. Lequel de nos inséparables vous aura le plus étonné, Stéphane?
Écoutez, j'ai bien aimé ce voyage à Rieux-la-Pape.
Oui, ça vous a plu.
Oui,
hein.
Parce que. Au fond, avouez, on a tous une attirance pour les monstres, pour ce qui sort de l'ordinaire.
Le mot est fort, mais disons une curiosité. Vous regardez Olivier Pouls et David qui n'ont rien de monstrueux.
Ils ont des monstruosités de la nature.
Bon, certes, David a un espace entre sa bouche et son nez qui est un petit peu exagéré.
Des plus grands d'Europe.
Mais à part ça, ils sont tout à fait normaux.
Et parce que le voyage dans le temps ne s'arrête jamais, désolé encore pour votre compagne, mon cher Mathieu, mais historiquement vôtre, c'est aussi le week-end.
Ça continue, c'est vrai qu'on se voit aussi le week-end.
Donc on se retrouve dès demain à 16h sur Europe 1.
Avec plaisir.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.